Je vous invite donc à lire le psaume 2, que je vais lire dans la seconde 21, psaume 2, les 12 versets du psaume 2. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase du potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Avec le psaume 1, le psaume 2 n'a pas de suscription. Donc c'est le titre qui était dans les psaumes et qui sont en italique, en tout cas dans la seconde 21, mais peut-être aussi dans votre traduction. Par exemple, si vous regardez au psaume 3, ça nous dit au premier verset, « Psaume de David lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom ». Donc les psaumes 1 et 2 n'ont pas de suscription, de titre qui donne un petit peu le contexte ou l'auteur du psaume. Et puis, c'est parce qu'ils ont été placés, ces deux psaumes, au début du psautier, donc du recueil des 150 psaumes, pour l'introduire. Et on avait vu que la semaine passée, le psaume 1 était une introduction à tout le psautier qui nous donnait un petit peu deux routes que l'on pouvait suivre. La route du juste, la voie du juste qui prospère, qui porte du fruit parce qu'il est nourri par la parole de Dieu. Et c'était une invitation à faire partie de ce juste, à méditer la parole des psaumes, la parole de Dieu, pour porter du fruit et prospérer. Et on avait aussi la route des méchants, la voie des pécheurs qui, ultimement, va mener à la ruine. Et le psaume 2 complète cette introduction en posant la question, qui est-ce qui règne? En qui est-ce qu'on place notre confiance? On lira un petit peu plus tard dans la prédication Actes 4, 25, mais ce verset nous dit que c'est David qui a écrit ce psaume. Et donc on va commencer à faire la première partie de cette prédication en passant dans le psaume pour comprendre le contexte original dans la vie de David. Le roi David, pour le situer, qui date de plus ou moins, moins 1000 avant Jésus-Christ, avait été désigné roi par le prophète Samuel. Et Samuel l'avait oint d'huile. C'était la manière, à l'époque, de montrer qu'une personne en particulier avait été choisie par Dieu pour avoir une place spéciale dans son plan. Les rois étaient oints, et puis les prêtres et les sacrificateurs étaient oints aussi. Et être oint d'huile, donc qu'on mette de l'huile sur la tête d'une personne, c'était une manière de montrer que Dieu l'avait choisi. Et le peuple d'Israël avait un terme technique pour ça, c'était le terme de Messie. Un Messie, avec un M minuscule si on veut, c'était quelqu'un qui avait été oint d'huile, choisi par Dieu. Et David, donc le roi David, qui connaissait bien les Écritures, qui avait lu les cinq premiers livres de la Bible, la Torah, donc Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, mais qui aussi avait en sa possession le livre des Juges, Ruth, et puis Josué, avait médité cette parole de Dieu et avait compris un petit bout de comment Dieu fonctionnait, on va dire, dans l'univers. À savoir qu'il avait délégué une partie de son autorité à un représentant qu'il avait désigné. Et au tout début de l'histoire, c'était Adam. Adam, le premier homme qui avait reçu la mission de Dieu de faire prospérer le jardin d'Éden et de faire petit à petit progresser, étendre ses frontières pour que la terre entière soit remplie de ce jardin. Mais, et peut-être que vous avez déjà lu ça dans Genèse 3, Adam et Ève ont désobéi. Ils ont été tentés par le serpent et ils ont désobéi à Dieu et ont été chassés du jardin. Et alors que Dieu prononçait les paroles de jugement contre Adam et Ève, eh bien, il a annoncé qu'il y aurait une guerre, en fait, une guerre entre, d'un côté, les descendants du serpent, la descendance du serpent, et de l'autre côté, la descendance de la femme. Mais au milieu de cette annonce de cette guerre qui allait continuer, hein, qui avait commencé dans le jardin d'Éden et qui allait progressivement prendre de l'ampleur, Dieu a annoncé qu'un jour, un descendant de la femme écraserait la tête du serpent, mais que ce serpent lui mordrait le talon. Et donc, à partir de ce jour, il y avait une attente d'un héros, de cette personne, ce descendant, qui allait écraser la tête du serpent, gagner la guerre entre, d'un côté, la descendance de la femme et de l'autre, la descendance du serpent. Et ce héros serait celui par qui Dieu manifesterait sa puissance, sa gloire, sa justice. Et en lisant les psaumes, il semble que David, le roi David, ait compris ce schéma ou ce motif qui se répète de la descendance du serpent et la descendance de la femme qui sont en guerre, et qu'il a interprété sa vie selon ce schéma. Et d'ailleurs, si vous lisez l'histoire bien connue de David contre Goliath, le texte nous dit que Goliath était recouvert d'écailles, et dans le texte en hébreu, d'écailles de dragon. Goliath est un représentant du serpent qui se bat contre David, un représentant de la femme et du peuple de Dieu. Et donc, on retrouve cette guerre dans ce psaume, puisque les versets 1 à 3 nous parlent d'une guerre de personnes qui se liguent contre Dieu. On a d'un côté les nations et les rois, les chefs, et de l'autre, Dieu et celui qu'il a désigné par onction, à savoir un Messie. C'est ça, hein, celui qu'il a désigné par onction, un Messie. Et David ici, je crois, on parle de David ici. C'est David qui a été désigné par onction pour être roi. Et pendant sa vie, David a subi effectivement l'opposition des Philistins, d'autres peuples autour d'Israël, mais aussi à l'interne. Saül, Absalom ont fait la guerre à David qui avait été choisi par Dieu. Et David s'étonne de leur plan pour le renverser. Il commence ce psaume en disant « Pourquoi ?» Il y a une vraie question, pourquoi est-ce que ces nations, ces rois, veulent faire la guerre à l'Éternel et me faire la guerre, se demande David. Il y a une surprise. Pourquoi il se pose la question? Mais parce que ses plans sont ultimement dépourvus de sens. Ils ne mèneront à rien. En planifiant des plans pour renverser David, eh bien, ces gens s'attaquent ultimement à Dieu lui-même. Et donc, cette rébellion est vouée à l'échec. La rébellion de ces chefs contre Dieu montre qu'en fait, ils ne veulent pas lui obéir et qu'ils font partie des méchants du psaume 1. Ces méchants qui ne méditent pas la parole de Dieu et dont la voie mène ultimement à la ruine. Ils se rebellent contre Dieu et contre son Messie, David. Et David imagine leur discours et il place ses paroles dans leur bouche au verset 3. « Arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. » Pour ces rois et ces nations et ces peuples qui veulent se soulever contre Dieu, la bonne autorité de Dieu, que l'on connaît par la lecture de sa parole, la Bible, ce sont des chaînes, ce sont des liens, cela les enferme, cela les handicape. Et on a un petit peu la même image ici qu'un ado qui se rebelle contre ses parents alors qu'ils prennent la bonne décision pour lui. Finalement, pour celui ou celle qui ne veut pas obéir, l'autorité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une mauvaise chose. Et tout est vu comme étant quelque chose qui nous enferme. Et on a la même image ici. Ces rois, ces peuples rejettent Dieu parce qu'ils sont rebelles. Ce n'est pas que la loi de Dieu est mauvaise, c'est qu'ils ont un cœur qui est mauvais. Alors comment Dieu réagit-il à cette révolte? Eh bien, il réagit au verset 4 avec deux figures de style. David ici utilise deux figures de style, une qui s'appelle un anthropomorphisme, c'est un mot un petit peu long qui rapporte pas mal de points au Scrabble, mais qui est finalement juste une manière de dire qu'on habille Dieu, ou on donne à Dieu des attributs humains pour parler de qui est Dieu. Anthropo, c'est homme, et puis morphisme, c'est la forme. Et donc Dieu est présenté au verset 4 comme un roi humain régnant sur son trône. Mais c'est un anthropomorphisme parce que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Ça n'a pas de sens physique pour Dieu de s'asseoir à un endroit. Mais visuellement, on va dire symboliquement, il est représenté assis sur son trône, régnant sur l'univers, parce qu'il est souverain, il règne. Et donc Dieu est souverain sur l'univers entier. Il siège dans le ciel. Et il rit. Il se moque d'eux. C'est la deuxième figure de style qui s'appelle une anthropopathie, où on donne des sentiments humains à Dieu. À savoir que Dieu se moque, Dieu rit de ses plans et de ces gens qui se liguent contre lui. Et Dieu n'est pas arrogant ici, ou moqueur dans le sens qu'il veut les casser, mais il rit de la futilité de leurs plans. Ce n'est pas du tout impressionnant pour Dieu de voir les peuples et les nations de la terre se rebeller contre lui, parce qu'il règne. Et donc, Dieu sait bien que c'est voué à l'échec. Il brasse de l'air. Ces deux figures de style, anthropomorphisme et anthropopathie, se retrouvent plusieurs fois dans les psaumes. On nous dit par exemple que Dieu, le peuple de Dieu est pris en sécurité sous les ailes de Dieu. Dieu n'a pas d'ailes. C'est une image pour nous parler de la protection que Dieu nous donne. Et donc, Dieu règne et Dieu n'est pas du tout impressionné. Et Dieu parle, il parle à ces gens, il leur parle dans sa colère. Pourquoi la colère? Parce que Dieu répond d'une manière juste et sainte à la rébellion contre sa volonté. La colère de Dieu est la juste réponse à l'injustice et à la rébellion. Dieu ne peut pas laisser le mal se développer, la rébellion et l'injustice se développer sans rien faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et on pourrait imaginer qu'il va envoyer une pluie de grelons, comme on a connu il y a quelques jours, qu'il va faire tomber le feu du ciel. Et Dieu leur répond dans sa colère, verset 6, des paroles. « C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Dieu rappelle aux nations que David, c'est lui-même qui l'a établi. C'est le Dieu qui siège sur son trône et qui règne sur tout l'univers qui a établi lui-même David à sa place. David ne peut donc pas être renversé parce que c'est Dieu qui l'assure. Sa justice sera donc accomplie, sa volonté sera donc manifestée parce que c'est Dieu qui tient la vie et la royauté de David entre ses mains. Donc Dieu n'est pas impressionné. Et alors qu'on était dans la salle du trône au verset 4 à 6, on redescend sur terre dans les versets 7 à 9, pour entendre David se rappeler d'une façon un petit peu poétique de son couronnement. C'est David donc qui parle au verset 7. « Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » David se rappelle que c'est Dieu lui-même qui l'a établi roi. Et dans le Proche-Orient ancien, les rois étaient d'une certaine manière revêtus d'autorité divine et avait une dignité royale particulière parce que Dieu les avait mis comme rois. Et donc, David est le fils de Dieu dans le sens où c'est Dieu lui-même qui l'a placé comme roi et qui l'a revêtu de cette autorité royale glorieuse. Mais à ce souvenir que David évoque de façon poétique, eh bien, se mélange un espoir. L'espoir d'un futur roi qui, enfin, écrasera la tête du serpent. Si vous placez votre doigt dans Psaume 2 et que vous allez lire ensemble, que nous allons lire ensemble dans 2 Samuel 7, on a ici Dieu qui parle à David et qui lui donne une promesse. 2 Samuel 7, c'est les versets 12 à 14. Donc David est sur le trône, il règne à Jérusalem, la capitale du royaume d'Israël. Et puis David aimerait construire un temple pour l'Éternel, construire une maison, et puis l'Éternel lui répond. Et il lui dit, pas mal de choses, mais on va commencer à lire au verset 12. « Quand ta vie, David, prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son trône. » C'est lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. David donc reçoit cette annonce d'un, déjà de Salomon, son descendant, qui prendra le trône, mais aussi d'un descendant plus lointain, qui aura un trône éternel. Et alors que David médite sur son couronnement, il a été nommé, entre guillemets, fils, parce qu'il a été nommé roi par Dieu, eh bien il exprime aussi son espoir dans l'avenir. Un jour viendra ce fils attendu, ce fils qui accomplira les promesses et qui aura un royaume éternel. Les versets donc 7 à 9 sont parlés d'une certaine manière par David, mais aussi par ce descendant à venir. David met des mots dans sa bouche. Et il sera appelé fils de Dieu, mais il aura aussi une relation extrêmement proche avec Dieu. On lit ça au verset 8 du psaume 2. Ce descendant dira à Dieu, Dieu dit à ce descendant, « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. » Cette personne, dans le futur, pourra demander à Dieu de recevoir toute la terre et Dieu la lui donnera. Et ça rappelle, pour un Israélite du temps de David, les promesses faites à Abraham, à qui Dieu avait dit que toute la terre serait bénie au travers de lui. Et on a également, au verset 9, ce descendant pourra briser les nations avec un sceptre de fer. Il les brisera comme le vase d'un potier. Il rétablira la justice, il rétablira l'harmonie. Les rebelles seront châtiés. Et le verset 9, avec ce terme de sceptre de fer, rappelle une promesse qui avait été faite par Jacob à Juda, dans Genèse 49, on ne va pas la lire, mais Jacob disait que le sceptre ne partirait pas de Juda, et ça annonçait un roi qui allait arriver descendant de Juda. David est descendant de Juda, et son descendant sera aussi du coup descendant de Juda. Et il aura ce sceptre, cette royauté universelle. On a donc, dans ces versets 7 à 9, une méditation poétique sur le passé, mais aussi un espoir prophétique d'un descendant de David qui régnera sur les nations entières. Les rois, donc, se sont ligués contre Dieu et son Messie, avec un M minuscule. Dieu rappelle qu'il a lui-même établi son Messie et qu'il régnera. Comment donc doivent se comporter ces rois, ces nations qui se révoltent contre Dieu? Eh bien, avec sagesse. On voit ça dans les trois derniers versets, au verset 10 à 12. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire. » Ces personnes, ces chefs sont appelés à voir comme Dieu voit, à voir avec les lunettes de Dieu, entre guillemets, que, effectivement, cette guerre entre le descendant du serpent et les descendants de la femme va être gagnée par ce fils qui arrivera dans l'avenir. Et donc, ils doivent vivre en conséquence. Ils doivent vivre avec sagesse, se laisser instruire et au verset 11, servir l'Éternel avec crainte et se réjouir tout en tremblant. Ils doivent arrêter leur vaine rébellion, mais servir Dieu avec crainte, avec un respect qui est dû à Dieu, qui règne sur son trône. Mais non seulement ils doivent craindre Dieu et le servir, mais au verset 12, ils doivent rendre hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et qu'il n'aille à leur perte, car sa colère s'enflamme rapidement. Rendre hommage au Fils, c'est une manière de parler de David, qui est fils de Dieu parce qu'il est roi. Et donc, pratiquement pour David, c'est un appel à ce que les nations environnantes d'Israël arrêtent leur révolte, arrêtent leur rébellion et laissent le royaume d'Israël tranquille. Mais c'est aussi une attente messianique, un espoir que le monde soit en paix et retrouve l'harmonie. Sinon, sa colère se déchaînera, une juste et sainte colère contre les ennemis de Dieu. Et ce psaume conclut avec une béatitude, un verset qui nous encourage à être heureux et qui contraste avec le début de ce même psaume. On avait commencé avec de l'agitation, de la pagaille, des plans de révolte, et on termine avec la confiance, le bonheur, l'harmonie. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en celui que Dieu a choisi, en celui que Dieu a oint. L'harmonie est revenue parce que les nations font confiance à celui que Dieu a choisi. Et non seulement cette béatitude contraste avec le début du psaume 2, mais elle fait écho au début du psaume 1. Et c'est pour ça que ces deux chapitres forment l'introduction. Il y a un inclusio, ce qui signifie que la première partie du premier psaume et la dernière partie du deuxième psaume se font écho. Heureux tous ceux qui se confient dans le Fils, fait écho au verset 1 du psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Comment être heureux? En se confiant en celui que Dieu a choisi pour être son Messie. Ce n'est pas simplement obéir à une liste de règles, comme on pourrait avoir peut-être l'impression en lisant le psaume 1, mais c'est faire confiance à une personne. Cette voie du juste qui mène au bonheur passe par faire confiance à une personne. Et celui qui fait cela sera heureux. Le psaume 1 donc le psaume 2 est un rappel donc que Dieu a choisi David et que les nations environnantes qui fomentent des plans contre lui et contre le peuple d'Israël sont vouées à l'échec. Et au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, eh bien avec les événements qui sont arrivés, le peuple de Dieu a eu l'occasion de méditer ces psaumes, de méditer ce psaume. Après David vint son fils Salomon. Et Salomon était un bon roi sur certains aspects et sur d'autres pas trop. Ce qui fait que après lui, le royaume a été divisé en deux parties qui se sont éloignées petit à petit de cette route du juste, de la voie du juste. Ils ont choisi la voie du méchant qui mène à la ruine et qui a finalement mené à leur exil, leur déportation en Assyrie pour le royaume du nord, à Babylone pour le royaume du sud. Mais Dieu les a ramené le royaume de Juda de l'exil. Et alors que le peuple traversait tous ces événements douloureux, où les rois étaient mauvais, où il semblait n'y avoir aucune issue, eh bien, une attente messianique a grandi. Ils ont relu toutes ces annonces, ces psaumes, et ont compris que David n'était pas ce héros que l'on attendait. Salomon n'était pas ce héros que l'on attendait. Quelqu'un d'autre allait devoir venir. Et une attente messianique d'un héros, d'un roi a grandi petit à petit. Et ce roi est finalement venu dans la personne de Jésus. Jésus qui est le descendant de David. Jésus qui est le Fils de Dieu. Et alors qu'il vit sur terre en Palestine, qu'il meurt et qu'il ressuscite, il accomplit ses promesses. Il accomplit cette attente messianique. Il est le descendant de la femme qui écrase la tête du serpent à la croix, mais qui, en faisant cela, se fait mordre et paye de sa vie cette victoire. Les apôtres du Nouveau Testament ont compris que Jésus était l'accomplissement de ces prophéties. Des prophéties extrêmement claires, comme on peut lire dans Ésaïe ou Jérémie, mais des prophéties peut-être plus voilées, qui sont plutôt de type d'un schéma. Un schéma du type le descendant du serpent, la descendance du serpent qui se bat contre la descendance de la femme. Et David, en tant que roi choisi par Dieu, est un type de Jésus, c'est-à-dire que c'est une personne qui préfigure le ministère de Jésus. David était roi, Jésus est aussi roi. Mais David était un roi imparfait qui a fait des erreurs et qui a fini par mourir. Jésus est un roi parfait, sans péché, éternel. Jésus est donc ce qu'on appelle l'antitype de David, mais l'expérience de David dans ce qu'il a vécu est aussi d'une certaine manière un type de ce que Jésus a vécu. C'est typique, et c'est là d'où vient ce mot type, hein, mais c'est typique pour la descendance de la femme, pour le peuple de Dieu, de subir l'oppression et la violence et la révolte de la descendance du serpent. Durant tout l'Ancien Testament, on peut tracer cette ligne-là. Et c'était donc typique pour Jésus de subir la même oppression, la même révolte. Et les apôtres du Nouveau Testament ont compris que l'expérience de David était typique de l'expérience d'un Messie. La différence, c'était que Jésus était le Messie avec un grand M, le Messie parfait, le Messie attendu. Les apôtres ont compris donc cela, et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont compris que le psaume 2 parlait de Jésus. Et c'est surprenant. Parce qu'en lisant le psaume 2, on ne se dit pas vraiment que ça parle d'un charpentier qui est né aux alentours de l'an 0 et puis qui allait faire des miracles et mourir sur une croix. Et peut-être que lorsque vous lisez le Nouveau Testament, bien vous voyez dans votre Bible que voilà, cette citation est tirée de l'Ancien Testament, d'un psaume ou d'un passage des prophètes. Et vous allez lire, parce que vous êtes un petit peu curieux, ce passage dans son contexte, et vous vous rendez compte que ça ne parle pas du tout de la même chose. Et vous vous dites, mais comment ils ont fait les apôtres pour comprendre ou faire un lien entre ce passage de l'Ancien Testament et cette partie de la vie de Jésus ou des actes ou de l'histoire de l'Église. Et on se dit, un peu bizarre. Et si un prédicateur faisait ça, il se ferait taper sur les doigts par son professeur de prédication parce qu'il lui dirait, tu prends un passage en dehors de son contexte. Tu n'as pas le droit de faire ça. La différence, c'est que les apôtres étaient inspirés par le Saint-Esprit pour écrire le Nouveau Testament. Mais ils avaient une très bonne herméneutique, c'est-à-dire une très bonne manière d'interpréter la Bible. Ils avaient compris ce schéma descendance de la femme contre descendance du serpent. Ils ont compris que ce schéma se répétait à travers les âges et qu'il s'appliquait à Christ. Et c'est pour ça qu'ils ont cité à plusieurs reprises le psaume 2 dans le Nouveau Testament en disant « c'est accompli ». Alors même que lorsqu'on lit le psaume 2, on ne se dit pas vraiment que c'est une prophétie. On ne se dit pas vraiment que cela annonce quelque chose d'un roi qui va arriver plus tard. Mais les apôtres ont compris ce motif, ce schéma, et l'ont appliqué justement à Jésus. Et je vous propose donc 3 citations du psaume 2 dans le Nouveau Testament, et on va voir comment les apôtres l'ont interprété. Et la première se trouve dans Actes 4. On va lire les versets 24 à 28. Donc, acte 4, c'est Pierre et Jean qui viennent de guérir au nom de Jésus un malade, un boiteux, et puis ils se font arrêter par les responsables religieux juifs, interrogés, et puis après ils se font bien enguirlander, et après ils sont relâchés. Et après être relâchés, ils retrouvent les autres apôtres et leurs amis, et ils prient ensemble. Et le verset 24 est le début de cette prière. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, citation du psaume 2, « Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. » Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Une citation un petit peu surprenante. Les apôtres voient ici dans le fait que Hérode et Ponce Pilate, donc les chefs juifs et romains de l'époque, ont arrêté Jésus et l'ont laissé le mettre à mort. Ils voient un accomplissement d'une annonce qui a été faite dans le psaume 2, alors que quand on lit le psaume 2, on ne voit pas d'annonce. On voit juste un cri à Dieu de David qui est attaqué. Mais de nouveau, les apôtres ont compris. David, en tant que descendant de la femme et roi choisi par Dieu, était attaqué par la descendance du serpent. Et Jésus, en tant que descendant ultime de la femme, roi éternel couronné par Dieu, lui-même fils de Dieu, a été également attaqué par la descendance du serpent. Et avec cette lunette herméneutique, on pourrait dire, ils interprètent ce qu'ils ont vécu et se disent « mais le psaume 2 parlait de ça ». Et ils disent assez courageusement, on va dire, au verset 28, ils ont accompli, c'est-à-dire Ponce Pilate et Hérode, tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc ça nous montre que non seulement Jésus est celui dont parle le psaume 2, mais que ce schéma descendance de la femme contre la descendance du serpent, est typique du peuple de Dieu et a été accompli, on va dire, a trouvé son accomplissement ultime en Jésus. Un autre passage qui nous parle du psaume 2, c'est Hébreux 1, les versets 4 à 5. L'auteur anonyme de la lettre aux Hébreux rappelle que Christ est supérieur aux anges, que Jésus n'est pas un ange avec un rang élevé, il n'est pas le chef des anges, mais il est infiniment supérieur aux anges, il est d'une autre nature que les anges. Et donc en parlant de Jésus à partir du verset 4, Jésus est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, citation du psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, citation de 2 Samuel 7 qu'on a lu, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » L'auteur de la lettre aux Hébreux ici lit l'Ancien Testament et comprend que les annonces de ce fils de David qui va arriver un jour nous parlent de Jésus. Jésus est le fils de Dieu, il représente parfaitement Dieu le Père. Il partage la même nature divine. Tout ce que le Père possède, le Fils le possède aussi. Et même si la Trinité est évidemment mystérieuse et qu'on ne pourra jamais entièrement la comprendre, eh bien elle était, dans un certain sens, annoncée dans l'Ancien Testament. Pas d'une manière claire, mais d'une manière typique, on va dire. Jésus est ce Fils ultime qui représente parfaitement l'autorité du Père. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux applique donc ces passages de l'Ancien Testament comme Dieu parlant à Jésus directement. Un dernier passage que l'on va lire se trouve dans Apocalypse, chapitre 19. On va lire les versets 11 à 16 et 19 à 20. On est presque à la fin de l'Apocalypse et une grande bataille est en train de se préparer. Et Apocalypse 19, à partir du verset 11, Jean nous dit « Ensuite je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Donc on parle donc de Jésus ici, qui a donné son propre sang à la croix. « Les armées célestes le suivaient, habillées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. » Citation du psaume 2, « Il les dirigera avec un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». À la fin de l'histoire, lorsque la rébellion de la descendance du serpent aura atteint son paroxysme, eh bien, Jésus reviendra et accomplira une fois pour toutes ce verset du psaume 2. Il les dirigera avec un sceptre de fer. Et on lit quelques versets plus loin, au verset 19. « Alors je vis la bête, qui est évidemment la représentation du serpent. » D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on parle d'un dragon. Ben, c'est le serpent, en fait, qui est personnifié dans un dragon. « Je vis la bête, les rois de la terre, de nouveau eux, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. » On n'a pas le temps de rentrer dans toute la symbolique ici, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une bataille, et que Jésus gagne cette bataille. Cette bataille contre les rois de la terre, ces mêmes rois du psaume 2, qui se révoltent ensemble contre Christ et son peuple. Et donc, à ce moment-là de l'histoire, dans le futur, eh bien, Jésus brisera une fois pour toutes la révolte de la descendance du serpent et ce sera la fin de l'histoire du mal. Le psaume 2 donc nous parle de Jésus. C'est le Messie, c'est celui que Dieu a désigné par onction. Il est venu et il a triomphé du mal à la croix. Et alors que nous lisons le psaume 2, nous pouvons nous poser deux questions et je vais terminer avec ça. La première, c'est, est-ce que vous redoutez les plans des nations pour renverser Dieu, son Messie et son peuple? On a reçu, et vous pouvez le trouver vers les flyers, la carte des pays où la foi coûte le plus, de porte ouverte, les 50 pays où des chrétiens souffrent le plus pour leur foi. Et dans des pays, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'heures d'avion pour aller dans ces pays, et bien, être chrétien est dangereux, peut vous mener à la mort, à la persécution, à l'emprisonnement. Les nations sont en train de, littéralement, de se battre contre le peuple de Dieu. Et en Europe, on ne vit pas ça d'une manière physique, dans la persécution, mais réfléchissez à la sécularisation que l'on vit, où la foi chrétienne est de plus en plus moquée, rabaissée, cachée, on veut la rendre invisible, elle est restreinte à la sphère privée. Il y a ici une certaine bataille, en fait. Il y a une oppression de la descendance du serpent qui se bat contre la descendance de la femme, qui est l'Église maintenant. Le rappel, si vous voyez tout cela et vous êtes un petit peu paniqué ou effrayé, c'est que Dieu siège sur son trône. Il rit, et il se moque de ses plans futiles pour renverser Jésus et son Église. Ça peut être très impressionnant de brasser de l'air comme ça, mais ultimement, eh bien, la descendance du serpent va perdre. Dieu ne sera jamais mis en défaut, il ne sera jamais renversé. Et celui qu'il a choisi, Christ, et son peuple, l'Église, ne seront jamais détruites. Et l'encouragement, si vous faites partie de ceux qui peut-être ont peur, c'est que de se confier en Christ. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Confiez-vous en Jésus. Rappelez-vous qu'il est tout-puissant et que Dieu règne sur son trône et qu'il a donné son autorité à Jésus pour accomplir sa volonté sur terre. Une autre application, c'est peut-être que vous faites partie de ceux qui sont rebelles contre Dieu. Peut-être que vous voyez l'autorité de Dieu sur votre vie comme étant mauvaise, quelque chose dont vous voulez vous débarrasser, des liens, des chaînes qui vous emprisonnent et qui, peut-être, vous avez l'impression, vous empêchent d'être vous-même. Mais est-ce que vous avez compris que c'est en vain que vous essayez de repousser Dieu en dehors de votre vie ? Dieu règne et il appelle chaque être humain à reconnaître cette autorité qui est bonne et à se soumettre à lui. Sa colère, on l'a lu dans le psaume 2, est réelle et elle est impitoyable, entre guillemets. Dieu fera justice de tous ceux qui se révoltent contre lui. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, et que la Bible nous dit, c'est que Jésus, ce Messie, ce roi qui accomplit la justice de Dieu sur terre, n'est pas venu premièrement avec une épée, mais avec une croix. Il a fait justice en se donnant lui-même à la croix. Il a payé pour les traîtres, il a payé pour les rebelles, tels que vous et moi. Et la bonne nouvelle que la Bible nous donne, c'est qu'il fait grâce à ceux qui se confient en lui. Heureux ceux qui se confient en lui, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Jésus. Ce psaume termine sur cette béatitude, heureux tous ceux qui se confient en Jésus. Et que vous soyez effrayés de ce que vous voyez autour de vous, que vous soyez dans une attitude qui lutte avec Dieu, confiez-vous en Christ. C'est là le vrai bonheur. Heureux tous ceux qui se confient en Christ. Je vous propose de prier pour terminer. Dieu Tout-Puissant, tu as désigné Jésus pour être ton Messie. C'est lui le roi dont nous avons besoin. C'est lui qui est le sauveur dont nous avons besoin. C'est lui qui accomplit tout l'Ancien Testament. Merci pour ce rappel dans le psaume 2 qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui qui règne. Et tous ceux qui se révoltent contre lui n'ont aucune chance d'aboutir. Merci parce que tu nous as fait grâce, nous avons été par ta miséricorde de ceux qui se sont confiés en lui. Aide-nous à demeurer fermes dans cette confiance, dans cette assurance que tu règnes et que tu mèneras ton plan à bien. Et donne-nous, Dieu Tout-Puissant, de reconnaître ton autorité comme étant bonne, comme étant juste, comme étant ce dont nous avons besoin. Merci pour la joie que tu réserves pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. Donne-nous d'expérimenter davantage cette joie alors qu'une nouvelle semaine commence demain. Dans le nom de Jésus. Amen.